mais vraiment qui est atypique.
Nadia, eh ben on va dire que c'est du teasing parce que vous allez rester avec moi, s'il vous plaît, pour nous parler de ce psychiatre atypique parce que c'est l'heure du flash. À tout de suite.
Oui, c'est déjà l'heure.
C'est déjà l'heure. D'accord. À tout de suite. Et au carillon de repas, il est donc minuit et on retrouve Brandon Ouaret pour les informations. Bonsoir Brandon.
Tous à la une de l'actualité, 14 mesures dévoilées par le gouvernement en faveur des agriculteurs, des mesures complémentaires qui s'ajoutent aux 62 engagements déjà présentés par Gabriel Attal qui visent à mettre fin à la crise agricole historique de cet hiver. Emmanuel Macron se dit prêt à ouvrir le débat d'une défense européenne, comprenant notamment l'arme nucléaire. Déclaration dans le cadre d'un face-à-face avec les lecteurs organisé par le groupe de presse EBRA. Et depuis la sortie du Royaume-Uni en 2020 de l'Union européenne, la France demeure le seul État membre à jouir de la dissuasion nucléaire. Le Hamas a publié ce soir une vidéo montrant deux otages israéliens enlevés le 7 octobre. Le mouvement islamiste palestinien avait déjà diffusé mercredi une vidéo d'un autre otage israélien. À l'étranger, le roi Charles III de retour sur le devant de la scène dès la semaine prochaine. Annonce hier du palais de Buckingham. L'évolution de son état de santé est jugée très encourageante selon les médecins. Le souverain britannique se faisait très discret depuis l'annonce de son cancer le 22 mars dernier. Charles III se rendra mardi en compagnie de la reine Camilla dans un centre de traitement du cancer. Record du monde pour le Titanic. Une montre en or retrouvée sur le corps du plus riche passager du navire a été vendue aux enchères, adjugée pour 1 300 000 euros par un Américain. Avant la vente, la montre était estimée entre 116 000 et 175 000 euros. C'est un record pour un objet lié au Titanic. Une histoire qui finit bien à l'ouest du Canada. Une jeune orque piégée depuis plus d'un mois sur l'île de Vancouver après la mort de sa maman est enfin libre. Elle s'est échappée toute seule. Plusieurs opérations de sauvetage avaient été lancées en vain ces derniers jours. Et si vous avez faim, sachez que la meilleure baguette de Paris édition 2024 a été désignée par la ville de Paris et le syndicat des boulangers pâtissiers du Grand Paris. Elle se trouve dans le 11e arrondissement. C'est la boulangerie Utopie de Xavier Nétry. Le boulanger aura l'honneur de fournir le palais de l'Élysée pendant un an. Le sport et le judo, la française Audrey Tchemeo s'offre un 5e sacre européen dans la catégorie des moins de 78 kilos ce samedi à Zagreb. Malgré ce nouveau titre, Audrey Tchemeo ne participera pas aux Jeux Olympiques de Paris cet été. La fédération a préféré Madeleine Malonga, vice-championne olympique à Tokyo. Et en football, l'Atlético Madrid a conforté sa 4e place qualificative pour la Ligue des Champions en s'imposant face à son poursuivant, l'Athletic Bilbao, 3-1. Et la 31e journée de Ligue 1, le PSG va devoir attendre pour inscrire à son palmarès un 12e titre de champion de France. Le club de la capitale n'a pas réussi à se défaire du Havre sur sa pelouse. Résultat final, 3 buts partout. Si Monaco ne s'impose pas à Lyon demain en clôture de la 31e journée, les hommes de Luis Enrique seront assurés de remporter la Ligue 1. Europe 1, minuit 3, et la libre antenne de Valérie Darmon, c'est jusqu'à 1h du matin.
Merci Brandon, vous ne nous avez pas donné l'adresse pour la meilleure baguette de pain.
11e arrondissement de Paris.
Bon d'accord, on va taper sur internet pour les fans de pain comme moi. Franchement, moi je fais le déplacement. On vous retrouve demain ?
Avec plaisir.
Bonne nuit, reposez-vous
bonne
bien.
Bonne nuit,
à
merci.
Demain.
Europe 1, 22h, 1h.
La libre antenne.
Valérie Darmon.
Rejoindre peut-être que vous soyez au volant de la voiture, que vous soyez chez vous, confortablement installé. Merci de nous rejoindre dans la libre antenne d'Europe 1 et de composer, si vous le pouvez, si vous le souhaitez surtout, le 01 80 20 39 21. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS au 7 39 21, suivi du mot nuit, ou nous écrire à libre antenne @europe1.fr. europe1.fr. Nadia, on était en train d'échanger sur votre histoire, bien sûr, que vous avez qualifiée de très compliquée, plus que ça, traumatisante, entre une mère infanticide et un père extrêmement violent. Vous avez découvert l'acceptation il y a quelques années, ce qui a fait que vous avez finalisé votre parcours de résilience, mais à la lumière de votre histoire, qui est particulièrement difficile depuis enfant, vous avez choisi de ne pas faire d'enfant alors que vous vouliez en avoir 5. Et vous étiez en train de nous dire, avant le flash de Brandon, que vous avez rencontré un psychiatre atypique. C'est quoi un psychiatre atypique, Nadia ?
Alors, c'est quelqu'un, déjà, qui n'enferme pas les gens dans des boîtes, dans le sens où... parce qu'un individu, c'est comme un kaléidoscope, hein, pour moi. Il est fait de tout un tas de... il peut être porteur de plusieurs problèmes, il peut être... et donc, c'est difficile, après, de mettre des étiquettes dessus. Parce que quand tout se mélange, c'est pas évident, quoi. Mais enfin, voilà, c'est quelqu'un avec qui je peux parler, et il n'y a pas de souci, quoi. Parce que tout va très bien, Madame la Marquise, mais je ressens qu'il y a quelque chose qui coince, et c'est justement ce que vous avez identifié, n'est-ce pas, le truc qui lâche pas chez moi. Et j'aimerais bien m'en défaire quand même.
Et oui, que ça se désensibilise, voilà. Et que ça se retraite, hein, soit par le MDR, voilà. Mais vous nous dites que ça ne marche pas. Et enfin, le MDR, en même temps, ne nécessite pas une collaboration et un lâcher-prise du patient ou de la patiente, hein, puisque c'est le cerveau qui travaille. Donc s'il y a bien un outil qui est utile aux gens qui sont dans un contrôle absolu, c'est le MDR. Parce que de toute façon,
j'en ai déjà fait.
Voilà. Parce que vous m'avez dit ça marche pas, ça n'a pas marché.
Oui, mais ça n'a pas marché. Mais ça, je me suis rendu compte quand, par exemple, j'ai fait de la sophrologie, Enfin voilà,
Mais ça ne traite pas. La sophrologie peut détendre, mais à mon sens, après ça n'engage que moi, ça ne traite pas.
Oui, mais ça c'est autre chose. Voilà, oui, ça c'est autre chose. Mais
ça apporte du bien-être, une forme de présence à soi, tout ça. Mais ça ne traite pas, en revanche. Hein.
Mais ça, c'était autrefois, vous voyez, ça, c'était quand j'étais vraiment pas... quand je commençais mon chemin pour essayer de m'en sortir, et puis voilà, quoi. Bon, parce que j'ai tapé à toutes les portes, hein, je peux vous le dire. Hein. Alors là,
Ce qui est important, surtout, c'est l'alliance thérapeutique, comme je le dis souvent dans la Libre Antenne d'Europe 1. Et là, visiblement, avec ce psychiatre, vous l'avez trouvé. Parce que si l'alliance thérapeutique est bien en place, vous allez faire confiance à votre thérapeute. Et c'est cette confiance qui va être aussi un moyen, un outil de la guérison. Hein. C'est vraiment une partie intégrante, quand on fait confiance à son thérapeute, de l'avancée, hein, des progrès de ce développement personnel, de cette compréhension de soi. Et là, j'ai la sensation qu'avec ce psychiatre, il y a quelque chose qui se passe.
Oui, mais surtout, là, je le fais non pas pour me défaire de quelque chose qui me pourrit la vie, hein, pas du tout. Mais moi, j'aime bien aller jusqu'au bout. Hein, et puis, surtout, là, c'est pour le fun, hein, vraiment. Hein. donc, voilà, quoi. J'aimerais bien aller au bout et voir après si je peux, si devant l'hypnose, je lâche, par exemple. J'aimerais bien savoir...
voilà, en hypnose, c'est pareil, il n'y a rien à lâcher, hein, puisque de toute façon, si vous voyez un hypnopraticien en ericksonien, ce que je suis par exemple, il va mettre d'un côté, il va occuper votre conscient à réfléchir, il va lui mettre des inductions, il va occuper votre conscient à faire quelque chose, et il va parler à votre inconscient. Donc de toute façon, il n'y a même pas une question de lâcher prise, parce que là, vous n'avez rien à faire justement. Il s'agit de ne rien faire, d'ailleurs c'est ce qu'on dit beaucoup en induction. Juste ne rien faire.
Mais
juste
c'est-à-dire que... Pardon. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui... C'est pas moi, mon action à moi-même. Hein. C'est moi, mais c'est...
C'est votre inconscient.
Ma partie inconsciente.
C'est ça,
voilà.
C'est ça.
Parce que, vous savez, l'hypnose, au tout début, quand j'ai commencé, j'ai fait 5 thérapeutes. voir si ça marche.
En hypnothérapie ?
Oui, en hypnose. Ah oui, mais moi, vous savez, je vais... quand j'y vais, j'y vais. Donc là, j'ai dit non, mais ça marche pas. Là, il y a quelque chose. Ça marche pas. Bon, ben voilà. Donc je suis passée à autre chose. Et c'est-à-dire, ben je me suis débrouillée toute seule. et puis. Mais vous savez, je suis tombée très jeune dans la psychologie. Et j'en suis tombée amoureuse. Et c'est ça qui m'a aidée, vous voyez, à m'en sortir. Et voilà quoi, enfin ceci explique cela.
Oui, mais de toute façon, rien n'est, comment dire, rien n'est un hasard de toutes les manières,
oui. Hein,
voilà, c'est ça. Et quand vous disiez tout à l'heure qu'on est des êtres kaléidoscopes, moi j'emploie souvent ce terme d'être mosaïque, hein, et on parlait de cet enfant intérieur, tout à l'heure vous me disiez... Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Alors, ça me donne l'occasion de dire que le 19 mai, nous allons faire une émission spéciale, comme on en a fait déjà à plusieurs reprises dans la libre antenne du week-end. La dernière étant sur le décryptage des rapports amoureux. Donc, la prochaine, le 19 mai, va être justement consacrée au décryptage des émotions. Qu'est-ce que ça dit, le syndrome de l'imposteur ? Qu'est-ce que ça dit, le syndrome de l'abandon ? À quoi correspondent, justement, qu'est-ce que c'est que cet enfant intérieur, à quoi est due la honte ou la tristesse ou la colère, comment on traite. Donc j'en profite pour dire que le 19 mai, vous pouvez d'ores et déjà nous appeler si vous voulez participer à cette émission. Alors maintenant, pour revenir à l'enfant intérieur qu'on a tous en nous et qu'on travaille absolument tout le temps en thérapie, quel que soit l'outil qu'on va utiliser, l'enfant intérieur, c'est la partie, c'est évidemment c'est métaphorique, hein, c'est archétypal, hein, c'est la mémoire du petit être humain qu'on a été quand on était enfant, hein, qui détient en fait nos besoins fondamentaux, nos pouvoirs créatifs par exemple, c'est vraiment notre moi profond. Et quand on va à la rencontre de notre enfant intérieur, ce qu'on peut faire en hypnose, en EMDR évidemment, eh ben on va retrouver ce moi profond, l'apprivoiser, le penser et l'aimer. C'est pas juste un outil en fait ou une technique, hein. C'est vraiment une partie de nous qui est à rencontrer et à chérir. Parce qu'en elle, on a tout le potentiel avec lequel on s'est incarné, avec lequel on est venu au monde. Donc si on va à la rencontre de son enfant intérieur, et qu'on devient son parent, hein, parce que moi j'ai bien entendu que vous avez été très jeune adulte, hein, évidemment, et en plus vous n'aviez pas où vous sauver quand vous étiez petite, parce que visiblement personne ne vous protégeait. Donc évidemment que cet enfant intérieur, il est toujours complètement apeuré. Hein.
Eh bien non, parce que j'ai trouvé une harmonie intérieure, puisque j'arrive quand même à supporter des choses qui auraient pu être insupportables il fut un temps. Mais là, vous parlez de l'enfant intérieur, mais moi, je connais hein, ce
bah
concept.
Vous, je sais, je le dis pour les auditrices et les auditeurs. Oui, voilà
et
votre
l'enfant
parcours.
Extérieur, alors, parce que j'ai déjà eu à... Il y a des gens, enfin des personnes qui parlent aussi de l'enfant extérieur.
Alors là, vous savez quoi ? C'est très intéressant. Je n'ai jamais entendu parler de l'enfant extérieur.
Alors c'est pour ça que moi, l'enfant intérieur, extérieur, bon, du moment qu'il est là, c'est le principe.
Ah bah il est forcément là, voilà. Puisqu'il est constitutif de qui on est, hein, donc ça voilà. C'est une obligation.
Et voilà. Et ce concept d'enfant extérieur, ça aussi, ça, enfin, l'intérieur, à la limite, ça me parle. Hein. Mais l'extérieur,
alors
franchement,
moi, je ne connais absolument
ça m'est
pas.
Étranger.
Moi, je ne sais
ça
pas.
Ça m'est étranger.
Bah, on posera la question à notre invité le 19 mai, qui, elle, aura peut-être des informations à nous donner sur l'enfant extérieur. Je vous invite à nous rappeler, Nadia, dans ces cas-là. Notez-le dans votre agenda pour le 19 mai, sur le langage des émotions.
Et oui, mais bah, de toute façon, ce sont nos émotions qui nous rendent malades et c'est nous-mêmes qui nous provoquons les pathologies et maladies et tout ça.
Ouais.
Puisque j'ai une passion pour le décodage biologique aussi.
Ah, très intéressant. Expliquez ce que c'est pour nos auditrices et nos auditeurs. C'est aussi un concept qui n'est pas tellement connu.
Alors, le décodage biologique, c'est... pour faire vraiment très, très basique et simple, c'est rechercher la cause émotionnelle d'une maladie, d'une pathologie, d'un mal-être, voilà. C'est ça. Et moi, c'est ce que... Ben, moi, vous voyez, toutes les maladies que j'ai eues ou que j'ai, eh bien, je sais pourquoi je les ai eues.
Alors, par exemple,
plus, pour illustrer... J'ai acheté un livre d'un monsieur, Claude Dailly, et alors, oh, comment ça s'appelle? Parce qu'il y a tellement longtemps que j'ai acheté ce livre. Je ne sais plus. Mais c'est par rapport aux symptômes. Aux symptômes. Oh, je suis navrée. Ça ne me revient pas.
Paul, sinon, il y a aussi le Michel Audoul. Hein. Dis-moi où tu as mal, je te dirai qui tu es, de Michel Audoul. À chaque fois qu'on déclenche une pathologie, on va regarder à l'intérieur et on a un autre point de vue. Bien évidemment, ça ne nous empêche absolument pas d'aller consulter un vrai médecin. Mais ça donne une indication sur la somatologie. Pourquoi on somatise?
Ben, disons que si vous voulez savoir l'origine d'une maladie, c'est pas un médecin qu'il faut aller voir là. L'origine émotionnelle, je parle. Hein. Je ne parle pas au niveau organique. Hein.
Voilà. C'est pour ça que je dis, l'un n'empêche pas l'autre. Il faut faire attention.
Oui, mais je ne dis pas que les médecins sont inutiles, hein, loin de là. Hein, parce que pour pouvoir évaluer un état de santé, c'est un médecin, enfin, quand il peut. Donc, voilà. Mais c'est-à-dire que moi, je fouine partout, quoi. J'essaye de... Voilà. Mais là, maintenant, ça y est, quoi. Je vais pas dire ça y est, je suis arrivée et je me repose. Mais c'est bon, quoi. Le plus gros effet... le plus gros effet et ben voilà, quoi.
Et oui, il reste encore un long chemin devant vous, a priori, quand même. Vous êtes encore jeune, hein. Donc, c'est beau, ce parcours.
Ah, vous parlez de la vie. Ah, ben la vie est belle et elle sera ce qu'elle sera, quoi. Mais je fais tout quand même pour l'améliorer et être au mieux, quoi.
On est partie prenante. Est-ce que vous, avec votre parcours affectif, très douloureux, est-ce que vous avez réussi... Alors, on a entendu pour les enfants, hein, de que vos peurs étaient plus fortes que le désir d'enfant, et elles l'ont emporté d'ailleurs. Mais en revanche, est-ce que vous avez réussi à tisser un vrai lien amoureux et sentimental?
Oui, mais de travers. dans le sens où moi, c'était plutôt... moi, j'étais plutôt maternante, vous voyez, et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, enfin, c'est pas bon pour moi, hein. Donc ça m'a servi de leçon, quoi. Et parce que c'est ça, la vie, hein, de toute façon, on en apprend tout le temps. Et là, j'ai compris. Vous voyez, là, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais ça sera pour partager. Ce ne sera ni pour combler un isolement, ni pour que quelqu'un me rende heureuse, parce que ça, je sais très bien le faire toute seule. Vous voyez, c'est très, très, très particulier, parce que même de ce côté-là, je peux vous dire que j'ai drôlement avancé aussi.
Ouais, vous voulez une relation donc, à égalité, en fait. On n'est pas le médicament de l'autre, ni la psy de l'autre, ni la maman de l'autre. Mais c'est juste,
on est un petit peu homéopathique, quoi. Voilà.
C'est ça.
Je veux dire être là pour quelqu'un quand il en a besoin et voilà. Je veux dire et puis surtout échanger, dialoguer, communiquer. Voilà. Il y a que ça. Il y a que ça qui peut marcher.
Ouais, et surtout bien en conscience. Voilà. Parce que souvent on est pris dans les schémas psychologiques parce qu'on les a pas identifiés. Quand on les a identifiés, c'est mieux.
Ouais. Ah ben oui, forcément.
Voilà.
C'est-à-dire être soi-même, tout simplement. Hein.
Oui, c'est le chemin. Fois. C'est le chemin. Vous êtes dans quelle région, Nadia? Vous voulez qu'on lance un appel comme pour Philippe? Et j'en profite pour dire que nous avons quelqu'un d'autre qui veut donner ses coordonnées à Philippe et qui nous laisse donc son numéro de téléphone, Philippe de Toulouse, hein, parce que la personne apprécie son intérêt pour autrui, son érudition et son envie d'avancer dans la vie et d'apprendre. Comme ça, comme Philippe est en train de nous écouter, il a tout le message et Juliette va lui donner ce contact aussi. Est-ce que vous voulez que je fasse le même appel pour vous, Nadia?
Non, pas spécialement.
Alors, très
moi,
bien.
C'était surtout pour le plaisir de converser avec vous. Et voilà.
Eh ben, écoutez,
après,
plaisir.
Après, vous
partagé.
Savez, moi, je laisse faire la vie.
Oui. Voilà. Vous avez confiance en elle aujourd'hui?
Ah oui. Ah oui, 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 totalement. Totalement.
Oui. Et on a une auditrice qui dit « Nadia me ressemble énormément. Quelle femme. Bravo. Respect. Ces mots sont les miens. »
C'est pas vrai. Alors ça me fait peur s'il y a quelqu'un qui me ressemble.
Bah non, c'est plutôt positif. Vous voyez, on est tous en écho, on est tous en résonance.
Ouais. Oh, c'est marrant, hein.
Et oui. Écoutez, un grand merci, oui. Nadia, d'avoir partagé votre histoire avec moi, avec nous, ce soir, sur l'antenne d'Europe 1, dans la Libre Antenne.
Oui.
Et elle rajoute, cette auditrice, qu'elle a l'intelligence du cœur, elle est fabuleuse.
Oh,
c'est très beau parcours de résilience.
Ça me va droit au cœur.
Et oui, et très beau parcours de résilience. C'est pour montrer aussi qu'il ne faut pas perdre espoir, il faut travailler pour s'en sortir.
Voilà,
et on y arrive. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, hein, surtout.
Ben, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est pas en restant en comptant sur quelqu'un en particulier qu'on va s'en sortir. Il faut s'y mettre, quoi. Il faut. Et puis on y arrive, hein. On y arrive et puis pour être un peu plus heureux, un peu plus léger. Ah oui, moi je vis dans la légèreté, vraiment, hein. Vraiment.
Et oui. Comme quoi les cartes ont été mal distribuées au départ, et à l'arrivée, vous arrivez à toucher du doigt et à vivre, hein, la légèreté. C'est quand même pas rien.
Bah,
vous êtes fière de vous, hein. J'espère que vous l'êtes, Nadia.
Disons, autrefois j'étais ma pire ennemie, et maintenant, depuis quelques années, je suis ma meilleure amie.
Bah écoutez, ce sera le mot de la fin de ce témoignage magnifique que vous nous avez livré ce soir.
Voilà.
Merci beaucoup de votre confiance.
Je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui doivent lutter ou qui doivent... Oh, lutter, j'aime pas ce terme là. Mais qui sont au boulot, quoi.
Voilà.
Qui sont au boulot et qui doivent donc avancer comme ça. Voilà, beaucoup de courage, à tous.
Merci beaucoup, Nadia. Voilà. Merci beaucoup.
Merci,
à bientôt.
Valérie.
À bientôt.
Vous êtes adorable. Merci.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Wasted in love, misunderstood. Baby, it's harder to breathe when you're gone. So I hold them in my hands. Pictures of you. Dream of the day you were eating for two. Valley.
magnifique morceau de Maneskin Valentine ce soir dans la Libre Antenne d'Europe 1.
La Libre Antenne d'Europe 1, 22h01, Valérie Darmon.
Bonsoir Gwenaëlla.
Bonsoir.
Merci d'avoir composé le numéro du standard. Je le rappelle, 01 80 20 39 21. Que puis-je faire pour vous? Dites-moi.
Eh bien, je vous appelle parce que je vais faire un témoignage de femme pour raconter un peu mon histoire et aussi, c'est dans le but aussi, c'est pour parler au nom de toutes ces femmes, toutes ces personnes, tous ces hommes, tous ces enfants qui ont vécu des choses compliquées. Mais c'est principalement pour parler, comme Nadia juste avant. En fait, c'est moi qui ai envoyé un SMS pour dire que ses mots ressemblaient aux miens parce qu'au final, elle ressemble énormément à mon témoignage de résilience, de vie, d'amour, de réunion, de plein de choses, de vertu de la vie au final. Parce que tout ce que j'ai vécu, c'est comme un moteur, comme une énergie qui fait la femme que je suis aujourd'hui. Voilà.
Bah c'est magnifique parce que c'est un formidable message d'espoir. Donc cette libre antenne est placée sous le signe de l'espoir. Hier, exactement, c'était la solidarité. Voilà, des valeurs qui nous tiennent à cœur. Quel a été... Tout commence évidemment au commencement. Donc dans votre enfance, puisque vous parlez de résilience, de réunion, d'amour pour vous-même aussi.
Également, oui.
Voilà, donc le chemin de résilience, il commence quand vous êtes enfant. Oui. Est-ce que c'est le parcours est compliqué? Vous l'avez dit, exactement les mots que Nadia a employés à l'instant. Compliqué dans votre bouche. Est-ce que c'est traumatisant comme celui de Nadia, même si c'est pas le mot qu'elle a?
Oui,
alors, je vous écoute, Gwenaëlla.
C'est plus que traumatisant, c'est un chemin de martyr, on va dire. Mais moi, c'est ma force. Et à ce jour, j'ai une joie. Et on parlait de prendre soin de l'enfant intérieur, mais aussi de l'enfant extérieur. Si je peux donner une petite explication.
Oui.
Je me suis spécialisée un peu comme Nadia pour comprendre, dans plein de choses, pour me comprendre et pour me connaître et pour comprendre ce que je vivais, pour me sauver la vie, entre guillemets. Je me suis spécialisée dans tout. Et donc, l'enfant intérieur, nous sommes faits d'extérieur, donc d'apparence, d'apparat, de chair, de matière. Et donc aussi, on est fait de subtilité d'intérieur. Donc, obligatoirement, c'est une fusion, les deux. J'espère que vous me comprenez.
Bien sûr, vous êtes très, très clair.
L'enfant intérieur et l'enfant extérieur, nous sommes aussi des femmes et des hommes intérieurs, extérieurs. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, prendre soin de son intérieur, comme prendre soin de son corps charnel, par des soins de médecine, par de la sophro et autres. Effectivement, prendre soin de son intérieur et de son extérieur, c'est sans ça, ça fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner.
Alors, j'entends bien l'intérieur et l'extérieur, bien évidemment, ce qui ne veut pas dire que c'est l'image que l'on renvoie aux autres et être dans le regard de l'autre, évidemment. Mais pourquoi l'enfant extérieur, dont on reparlera évidemment le 19 mai lors de notre émission spéciale sur le décryptage des émotions, pourquoi dit-on l'enfant extérieur comme l'exprimait Nadia tout à l'heure?
Alors, moi, je le dis, c'est moi, si tu parles avec mon langage personnel, sur le nom de personne, ça n'engage que moi, mais je vous dis, on est fait donc de chair et de matière.
Oui, oui.
On a un corps charnel et on a aussi, il y en a qui vont parler d'âme, moi je parle plutôt d'énergie, de vibration, donc de subtilité. Donc on a la subtilité intérieure et on a notre corps de chair, de matière dont il faut prendre soin. En fait, on est une entièreté. On a les deux, on n'est pas qu'une âme, on est aussi un corps de chair et de matière. Donc l'enfant extérieur représente l'apparat, l'extérieur. Et ce que je voulais vous dire, c'est comme nous, on est une femme ou un homme, on a aussi un intérieur, mais aussi on a notre corps de matière. C'est les deux. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, si tu prends soin que de ton intérieur, mais il y a pas ton corps aussi. Oui. T'as ton corps physique, donc il faut prendre vraiment soin. Comme vous disiez, être notre propre mère et notre propre père quand on a eu des parents en défaillance ou qu'on a vécu du viol, comme moi, de l'inceste, des choses compliquées. Mais moi, c'est la page blanche à ce jour. Je suis arrivée à obtenir une joie. C'est la résilience. Quoi que je vive, je suis en joie parce que j'ai complètement lâché prise, j'accueille et je sais que je sais faire. Sinon, si je ne sais pas faire, je sais aller me diriger vers les personnes qui peuvent m'aider. Et à ce jour, je suis entourée de personnes formidables. Je me suis entourée de personnes vertueuses, formidables. Et c'est ça aussi, c'est ça. C'est des belles rencontres. La vie, c'est une aventure. C'est une aventure, il y a du bien, il y a du mal. Je la prends comme ça maintenant, la vie. Je prends la vie comme si j'étais une aventurière, en fait.
Bah, quelque part, vous l'êtes plus que d'autres. Hein. Vous êtes presque une héroïne parce que vous avez parlé d'inceste et oui, de viol.
Beaucoup.
Donc, est-ce que d'ailleurs l'inceste c'est aussi un viol, hein, donc
mais la maltraitance beaucoup.
Voilà, d'inceste et de viol d'autres personnes, c'est ça que vous voulez dire?
Exactement. Ben oui, mais en même temps, quand on a subi ça dans son enfance, plus pratiquement 18 ans. Hein, c'est énorme quand même.
18 ans, incesté pendant 18 ans, Gwenaëlle.
Oui, enfant, bébé, très jeune enfant, jusqu'à à peu près 17-18 ans, de ce que je me souviens. Et comme je connaissais que ce schéma de maltraitance, de viol, d'ultra, et je suis autiste Asperger, j'ai été chercher le père de mon papa, le même schéma, j'ai reproduit. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais attends, tu reproduis, c'est pas possible, Gwenaëlle, tu vas pas été chercher. Bon, ça n'excuse pas, hein. On va pas excuser de quoi que ce soit. Mais j'ai compris, en fait, j'ai appris à me connaître. Déjà pour pardonner, mais pour vivre en mieux-être complet, quoi. Il a fallu que je comprenne les situations, que je puisse comprendre chaque personne, le pourquoi du comment, moi aussi. Donc j'ai reproduit, voilà, c'est tout, j'ai reproduit. Ça veut pas dire que j'excuse, hein. Ça veut pas dire aussi que c'est très bien ce qui s'est passé. Au contraire, non, mais j'ai aussi cherché les schémas que je connaissais, moi, voilà.
À quel moment vous avez commencé à voir le puzzle se dessiner?
J'ai toujours parlé, hein. Que ce soit par le corps, parce qu'on parle par le corps, souvent quand on est autiste Asperger, on parle pas avec les mots, on parle avec le corps. J'ai toujours dénoncé, hein, on m'appelait la rebelle de la famille, le vilain petit canard, parce que j'ai toujours osé dire, j'ai eu cette force de dénoncer, de parler. J'ai toujours eu un courage hors norme. D'ailleurs, actuellement, je suis artiste de rue principalement. Donc, j'agis dans la rue, en direct des gens, pour impacter par mon art, par mon charisme, par la femme que je suis, par mon histoire, parce que j'ai ce courage-là. J'ai un courage. Je le dis, on est des êtres, des femmes et des hommes qui sont courageux quand même, remplis de force. Il faut savoir le reconnaître quand même. Ce qu'on a souffert, ça nous a incarné d'une force énorme. Et ce que je fais là aujourd'hui, je le fais aussi par amour des femmes, des hommes. C'est un acte d'amour que je fais parce qu'il y a tellement personnes qui n'arrivent pas à parler. C'est tellement difficile de le faire.
Oui, et on avait eu Jana qu'on avait reçue aussi dans l'émission et aussi en plateau, hein, puisque nous avons des petites vidéos sur europe1.fr, sur le site d'Europe 1, qui a témoigné de cet inceste aussi qu'elle a vécu enfant par son père, et qui disait que il n'y aura jamais, jamais assez de voix qui pourront s'élever pour dénoncer cela.
Exactement, exactement. Mais moi, j'ai subi ça par plusieurs personnes, hein, pas qu'une seule personne. Moi, j'ai subi, on va dire, des milliers de viols dans ma vie. C'est énorme. J'aurais pu mourir 1000 fois. Mais à chaque fois que j'ai vécu quelque chose, j'ai eu ce regain de vie, de survie. Je me suis dit, mais t'es plus forte et t'es née pour vivre. Et moi, j'ai un fils. Il va fêter ses 28 ans. Vous pouvez même pas vous imaginer la niaque de vie que ça me donne. J'ai été défaillante, certes, par moments, par les souffrances, par les peines. C'est mon fils aussi. Je vis pour mon fils, pour sa compagne, pour mes amis, pour ma famille. J'ai retrouvé ma famille parce que j'ai appris à me pardonner. Je me suis pardonnée et j'ai pardonné. C'est énorme, le pouvoir du pardon. L'amour de l'humanité, au final, ça m'a incarnée par cet amour qui est énorme. J'ai un amour de la vie qui est énorme. Je veux vivre et je vivrai, quoi qu'il se passe. Et je sais pourquoi je suis née. Je suis née pour parler de mon histoire, pas la laisser stérile. Je suis née pour parler en exemple, comme Nadia vient de faire. Et des hommes et des femmes le font, c'est fabuleux. Je le fais aussi en tant qu'artiste de rue.
Voilà. Alors justement, on va revenir à votre enfance après, oui. Mais parlez-nous d'abord donc de cet outil maintenant que vous mettez au service, hein, de la résilience, qui est cet art de rue. Vous êtes dans quelle ville? Est-ce qu'on peut voir vos travaux quelque part?
Alors, pas vraiment pour le moment, parce que moi j'habite Saintes, je vous explique, en Charente-Maritime, dans le 17.
Oui, à côté de Cognac, je connais très bien.
C'est une très belle ville.
Très belle ville.
Par contre, moi j'ai dû me soigner. J'ai fait le privilège, j'ai 51 ans, j'ai compris qu'il fallait absolument que je me soigne pour faire quelque chose de vertueux et que je me guérisse d'être complètement stable. Moi j'appelle ça en harmonie, j'ai retrouvé ma souveraineté, J'ai retrouvé la femme originelle que je suis. Mais par contre, j'ai dû aussi... Je suis thérapeute, entre autres, mais dans la solidarité. Moi, j'ai un cœur énorme. J'offre et je suis devenue thérapeute pour me comprendre. En fait, quand tu aides les autres, tu t'aides toi-même. Hein. On sait très bien. Moi, j'ai eu d'abord cette intelligence et maintenant, je passe mes messages donc d'amour, de résilience. Donc déjà, en me posant en bas de mon immeuble dans les rues piétonnes à Saintes. Et maintenant, je me lance en tant que troubadour et conteuse, parce que danseuse, parce que j'ai pas mal de... Je suis au potentiel, très haut potentiel, c'est mon Asperger que j'aime, parce que c'est ma force. Vous entendez bien.
Ça, c'est important de le dire aussi, pour les auditrices et les auditeurs, bien sûr.
Non, il n'y a pas de handicap, je le dis, j'ai la niaque de le dire, il n'y a aucun handicap, ça ce sont que des mots. On va au-delà, et c'est surtout, c'est notre richesse. Nos maladies, nos peines, nos douleurs, c'est une richesse, c'est ma niaque de vivre à moi. Il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui m'a dit, un ami qui m'a dit, Gwen, sers-toi de ton Asperger comme ton pouvoir personnel. Et c'est ce que je fais. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est pas dur, ça ne veut pas dire que j'ai pas des peines. J'ai eu un accident assez grave dans la rue, je suis tombée en faisant des vidéos de danse il y a 15 jours. Mais je vous dis, j'ai une niaque de vivre, je sais ce que j'ai à faire et surtout, je suis très joyeuse. C'est ça la résilience. On est l'enfant intérieur, l'enfant extérieur est là, dans l'art d'ailleurs également. Et je suis une femme heureuse, joyeuse. Et j'ai fait des choix, par exemple, d'être asexuée à ce jour. Ça ne veut pas dire que j'aime. C'est, j'ai fait le choix de me protéger. C'est-à-dire, la sexualité, si je l'ai avec quelqu'un, ça serait quelqu'un de vertueux, d'honorable. C'est tellement beau, mais j'ai fait le choix de me protéger. Donc, ça fait 4 ans que je suis asexuée. Mais c'est pas, c'est quelque chose de vertueux, c'est une protection.
Vous choisissez, on parlait de conscience à l'instant avec Nadia.
Et oui, effectivement, c'est pareil.
Hein, voilà. C'est, vous êtes en conscience dans votre choix de ne pas vivre de relations sexuelles.
Je suis quelqu'un d'extra-lucide, hein. Je suis quelqu'un, je le dis, d'extra-lucide à ce jour. C'est quand même, tout ce que je fais est conscient. Il n'y a pas un mot que je vous dis ou un acte, tout est réfléchi en conscience pour moi, donc pour les autres. Parce que quand on fait les choses pour soi, on le fait pour les autres, par amour des autres, par respect. Moi, je parle de force, d'honneur, de respect, de valeur. Et j'incite à la réunion plutôt qu'à au séparatisme, à l'obscurantisme. Et c'est pas facile de
et
le faire.
D'ailleurs, réunion, vous savez, hein. On peut le lire en deux mots. On se réunion, oui. Hein, comme une
j'aime
union.
Beaucoup.
Voilà,
j'aime,
c'est ça.
J'aime beaucoup aussi lire les mots. En fait, j'ai la capacité de lire entre les lignes, de lire au-delà. C'est pour ça qu'on parle d'enfant intérieur et d'enfant extérieur. J'ai une capacité hors norme de voir ce que les autres ne voient pas, de ressentir et de comprendre. Et c'est ma force aussi à moi. C'est une intelligence. Par contre, je reste humble. Mais c'est bien, à un moment donné, de reconnaître qui nous sommes. On est assez dans un monde où il est mal de dire qui on est. C'est juste... juste être à sa place, tout simplement, et après, t'es libre dans ta tête, dans ton corps, ce que tu te connais. Moi, je me connais par cœur, je le dis, par cœur. Parce que chaque chose que je vis, chaque situation, je me pose les questions. Pourquoi tu le vis? Pourquoi tu bloques? D'où ça vient? Et parfois, ça vient pas de soi, mais comme elle disait la petite femme tout à l'heure, comprendre que chaque souffrance, chaque douleur a un sens, une origine. Et moi, je vais à l'origine de tout. Et c'est ça qui est formidable. Mais...
Gwenaëlla, vous êtes art-thérapeute ou vous faites quoi en thérapie
aussi, entre autres, je suis art-thérapeute maintenant, mais je précise autodidacte. Parce que moi, je suis une autodidacte, je suis incapable d'apprendre avec quelqu'un, parce que quelque part, je suis sortie du cadre. Je me suis décadrée, je me suis complètement désaxée maintenant pour rentrer dans le cadre, mais je me suis sortie du cadre. Il y a mon fils qui m'a envoyé un message il y a 15 jours, il me dit « Bravo maman, bravo, t'es sortie du cadre, t'es totalement atypique parce que je suis une femme atypique. Dieu sait que je vis des souffrances, hein, de lynchage, d'humiliation encore à ce jour, c'est pas grave. Je sais qui je suis, ce que j'ai à faire. »
Pardonnez-moi de vous poser cette question, Gwenaëlla, mais pourquoi à ce jour encore ces abus?
Comment?
Pourquoi à ce jour encore ces abus, ce lynchage, comme vous le dites?
Moi, je m'habille d'une façon très atypique. En fait, ma vie et ma façon de parler, hein, telle que brute de pomme, que je vous dis avec le cœur, toujours respectueux. Il y a des gens que ça dérange. Surtout, moi, j'ai parlé d'amour, j'ai parlé de choses, j'ai dénoncé mes vérités. Parce que quand même, il faut avoir un courage en homme, même toute petite fille, hein, de parler avec ses deux oncles de ce qui se passe dans la famille, des maltraitances, des soumissions, Ben non, quelque part, on m'a fait, faut quand même le dire, interné à plusieurs reprises pour me faire taire, mais il faut quand même le dire. On m'a fait passer pour schizophrène pendant une grande partie de ma vie. On m'a fait prendre des traitements jusqu'au jour où il y a un psychiatre qui m'a dit, mais madame, on va vous déconditionner. On va vous délaver le cerveau. On vous a lavé le cerveau. Et je vous jure, moi, j'ai été hospitalisée pendant 4 ans. On m'a délavé le cerveau. Je sais pas si des gens, j'ai entendu parler de ça. Délavé le cerveau d'une jeune femme à qui on a fait croire qu'on était pour me faire taire.
Gwenaëlla, pardonnez-moi de vous interrompre, mais est-ce que toute la famille était complice dans cette histoire?
Oui, et donc toute la famille le savait, mais c'est très dur. Vous savez, pour les frères et sœurs, c'est très dur, mais bon, moi, personne ne m'a écouté, personne ne m'a respecté. Mon fils a supporté autant que moi. Au final, ça a été très, très violent, très dur à vivre. Mais c'est horrible ce qu'on a vécu. Mais je vais vous dire, ça m'a donné une force énorme. Quand vous dénoncez, les gens ont peur. Les gens ont peur. Ça fait peur. Ça fait très peur. Et en même temps, ils sont perdus. J'ai compris ça. C'est tellement violent dans leur tête. Je leur en ai voulu à une époque. Mais c'est pas possible. Votre sœur vous dit, votre fille vous dit, vous faites rien. Je me suis sentie abandonnée. Mais j'ai compris. C'est la peur. Ça fait tellement peur. Et quand la justice vous rit au nez parce que c'est ce qui s'est passé. La justice, moi, on m'a fait perdre la garde de mon fils. C'est horrible. C'est horrible pour me faire taire. Mais c'est comme ça, mais c'est ma force. Et je ne veux plus me plaindre du passé, je veux juste avancer. Mais je le raconte parce qu'il y a tellement de gens qui vivent des horreurs. Et c'est notre force.
Et vous faites bien, et je vous remercie de choisir Europe 1 pour cela, parce qu'il faut toujours dénoncer. Il faut toujours dénoncer.
Je suis d'accord.
Et Nadia, par exemple, dans son désir d'enfant, elle a plutôt obéi à sa peur et on fait ce qu'on peut. Donc, il n'est pas question de juger, bien sûr. Mais en ce qui concerne. Les violences intrafamiliales, encore plus les incestes évidemment, ou les viols, il faut dénoncer, il faut mettre le cadre juridique.
Bien sûr.
Voilà, c'est important
bien
de
sûr.
Dire.
Bien
ce que vous
sûr,
avez fait.
Moi,
vous avez dit à quel âge? Vous avez commencé à formuler, à verbaliser à quel âge?
Moi, j'ai commencé très tôt, mais vous savez, quand on vous fait passer pour schizophrène et tout, ben, votre cerveau, et puis il y a une légitimité vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de sa famille, on a peur. Voilà, parce que les agresseurs vous disent quand même qu'on va, ben, il faut quand même être très clair, on va te tuer si tu parles, de toute façon, tu seras pas entendu. Vous savez très bien comment ça
bien
se passe.
Bien sûr qu'ils font du chantage.
Les pédocriminels
évidemment.
Sont des monstres, il faut le dire. Puis au-delà de la psychopathie, c'est l'horreur de l'horreur. Donc quand tu es une petite fille et que c'est plusieurs, c'est pas une personne, ben, on a peur, on va détruire la famille. Mais moi j'ai quand même parlé, mais comme j'étais pas écoutée et qu'on m'a fait soigner pour schizophrénie, ben, j'ai été perdue. Mais j'avais quand même des éclairs de génie, même avec mon ex-mari. Hein. J'ai dénoncé, j'ai parlé parce que j'ai vécu des horreurs. On va critiquer les gens du Maghreb et autres, c'est horrible. En France, il y a des Français, je suis désolée, mais il faut le dire, qui sont comme ceux-là, qui font vraiment des horreurs. Mais c'est aussi, il y a aussi des hommes qui vivent ça. Et c'est très peu dit, des viols, des enfants, des petits garçons, des hommes qui sont violés, qui viennent se confier bien à sûr. Moi, qui m'appellent à l'aide parce que je suis tellement pâte et je comprends tellement, des hommes, aussi bien des adultes que des adolescents, des jeunes hommes, qui sont violés, qui sont torturés par leurs compagnes. C'est la réalité. C'est la réalité.
Et aucun instituteur, aucune institutrice, le médecin de famille, personne ne vous a entendu.
Non, j'étais autiste Asperger, on me faisait passer pour schizophrène, parce qu'à l'époque, je suis née en 73, c'était pas connu. C'est toujours qualification, soit bipolaire, soit schizophrénie. Et puis en même temps, vous savez très bien qu'à cette époque-là, dans les années 80, même à la télé, hein, il était courant, même des types de la télé, des acteurs, des chanteurs, des producteurs qui racontaient leurs frasques, hein, voilà, avec les gamines, Polanski et autres. Et c'était naturel. À mon époque, c'était naturel. C'était quelque chose presque de rentrer dans les mœurs. Gainsbourg, je suis désolée avec Charlotte Gainsbourg, mais tout le monde le sait. Mais c'était naturel. Mais bon, moi, je suis désolée. Maintenant, je le dis, comme des petites femmes, comme des actrices maintenant qui dénoncent ce qu'elles ont vécu, et c'est la réalité. Mais c'est dur parce qu'on est prise soit pour des menteuses. On doit toujours prouver. Au final, on n'a rien à prouver. Quand quelqu'un dit qu'il a été violé, je suis désolée, mais on a juste à l'écouter, lui tendre la main. Qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Donc, Gwenaëlla, à quel moment vous déposez plainte? À quel moment?
Alors moi,
à 18 ans?
Il y avait prescription, je vous le dis sincèrement, c'est ça qui est horrible. Ça devrait même pas exister, c'est une honte en France. J'ai vers 25 ans, j'ai commencé à en parler. Non, 35 ans, exactement, 35 ans, quand j'ai eu les premiers flashbacks, les premières réminiscences qui étaient récurrentes. J'ai commencé à en parler dans ma famille, on me faisait passer vraiment pour une menteuse. Déjà, j'ai été évincée complètement, mais j'ai quand même été au commissariat. On m'a dit, après, à l'époque, je crois qu'il y avait 20 ans de prescription, je crois. Maintenant, c'est 30, je crois. Mais à l'époque,
ah oui, donc vous avez fait une amnésie. Vous avez fait une amnésie.
Moi, j'ai fait une amnésie traumatique très longue, assez longue, on va dire. Et puis, parce que vous imaginez être violée par trois personnes de votre famille très proche. Trois. C'était horrible, oui. Moi, ce que j'ai vécu, horrible.
Et jusqu'à 18 ans, vous nous avez dit, surtout. Donc,
à peu près, oui. Voilà. Et bébé, même. Hein. Vous entendez bien bébé, ce que ça peut faire à une petite fille ou un enfant. Hein. Moi, ça a été une horreur. Une horreur. Mais voyez, maintenant, je suis une femme. C'est énorme. Je suis fière de moi. Je suis fière de vous parler. Oui. Je suis fière de ce que je fais. Et je dois le dire, soyez fiers, et vous, messieurs, mesdames, là, et les enfants, les jeunes, les adolescents, soyez fiers, parce que ce que vous vivez, vous êtes encore en vie, vous avez la niaque encore, la résistance d'exister. Parce que la première fois qu'on est touché, on est mort dans sa tête. C'est une sensation de mort. On est mort, donc logiquement, c'est logique qu'on appelle ça en dissociation de soi, et surtout, on a le cerveau d'un côté, et chaque morceau, on est éparpillé en mille morceaux. Moi, j'ai réussi, vous savez, comme ça, Valérie, à rassembler par tendresse et amour chaque morceau, année après année, seconde après seconde, et surtout, je me suis donné de la douceur. Je suis quelqu'un, j'ai appris à m'aimer, à être douce, à être tendre, et à me privilégier. Voilà.
Comment avez-vous fait, Gwenaëlla, pour pardonner?
J'ai pardonné, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai compris le pouvoir du pardon. Moi, je ne suis pas du tout dans la spiritualité ni la religion. Je suis quelqu'un de très savante, on va dire, plutôt dans la science, dans la médecine. Mais j'ai compris une chose, que si je me pardonne, je vais être libre. Si je me pardonne, je vais être libre. Je veux vivre en paix. Et la seule façon de vivre en paix, c'est de m'être pardonné, donc de pardonner. Ça vient de pair. Et moi, je veux que les gens autour de moi soient heureux et que quelque part, voilà, c'est le pouvoir énorme du pardon de soi, je précise. Voilà, de soi. Moi, je me suis pardonnée parce que on est aussi des êtres.
Est-ce que ces prédateurs, vous les avez, ces bourreaux, vous les avez pardonnés aussi?
Alors oui, j'ai mis un chemin parce qu'ils sont décédés principalement. Les deux sont décédés, principalement. Il y en a qui sont encore là, mais
les deux frères de votre mère.
J'ai encore supporté quelque chose de dramatique. Il y a 2 ans, j'ai été violée par quelqu'un que j'ai aidé, torturée. J'ai été laissée presque pour morte, hein, et j'ai pardonné. Parce que cette personne s'est suicidée suite à m'avoir fait du mal. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est des choses très dures. Moi, j'ai vécu, mais c'est ma force, c'est comme ça. Mais je me suis pardonnée parce qu'on fait des erreurs aussi. Hein. On fait aussi, c'est la vie, c'est la pédagogie, les leçons de vie à tirer. J'en ai fait des erreurs. Et je me pardonne déjà mes conneries à moi, mes erreurs. C'est l'humilité de la vie. Baisser chapeau bas quand même de ce que j'ai fait. Et c'est vrai que quelque part, j'ai pardonné. Vous avez compris, Valérie, je veux être libre. Donc libre, c'est le pardon de soi à soi.
Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour ça que je vous posais cette question. Et est-ce que vous vous avez revu, par exemple, vos parents? Comment ça s'est passé? Allez-y, je vous laisse.
Pardon, je suis de nouveau de course. D'ailleurs, je suis chez ma maman ce soir. Il y a mon fils, il y a ma belle-fille. J'ai revu ma sœur dernièrement, il y a 2 jours, là, 2-3 jours. J'ai des contacts de nouveau parce que, quelque part, je ne sais pas si vous croyez au rayonnement, à la vibration, mais quand vous rayonnez, vous attirez, vous êtes un aimant qui attire. Donc les gens reviennent vers vous de manière vertueuse. C'est-à-dire quand tu es vertueux avec toi-même, tu n'as que du vertueux dans ta vie. Et ce qui essaye d'être non vertueux, tu ne le laisses même pas rentrer et ça vient essayer de te toucher, mais au final, ça ne t'impacte pas. On va dire c'est que ça rebondit. Vous voyez, l'effet rebondit. C'est tout. C'est comme si tu es imperméable, en fait. Mais moi, j'ai des relations vraiment d'amour là, je le dis. C'est devenu harmonieux. Avant, c'était totalement dysfonctionnel. Maintenant, il y a de l'harmonie. C'est quand même unique, ça. c'est beau l'harmonie. Hein.
Quel travail vous avez fait, hein, Gwenaëlla. Oui, voilà. Hein. C'est vraiment Nadia, et je comprends mieux vos mots ce soir au 739-21, oui, voilà. Parce que c'est vraiment, vous êtes toutes deux des parcours exemplaires de résilience.
Oui, oui. Ouais. Moi je crois à l'amour, hein, je vous le dis franchement, depuis que je suis toute petite, je sais que j'ai mon âme sœur. Au-delà de l'âme sœur, je sais que j'ai un double, je sais que moi j'ai mon double, et ça m'anime. Mais j'ai fait le choix d'abord de me privilégier pour faire la rencontre de mon double, quand ça sera mon moment, apaisé, calme, sereine, comme c'est maintenant, et donc d'être asexuée. Et ça, il faut le dire, c'est pas du tout quelque chose, au contraire, c'est vertueux. C'est vertueux, c'est je me protège, je me guéris, parce que quand on a subi des viols, des incestes, on souffre dans son corps, dans son être, et on ne peut pas, on ne peut pas. Donc ça sert à rien. En même temps, on attire des gens qui nous respectent pas. Moi, le but, ça doit être... La sexualité, c'est quelque chose d'honorable et ça doit être fait de manière vertueuse et respectueuse.
Et parfois, et parfois au risque de choquer certains, de sacrer,
oui,
d'ailleurs.
Oui, en pause. La pause. Mais la pause est nécessaire dans la vie. Comme je dis toujours aux gens, mets-toi en pause. Tu poses, là. Tu déposes ce que tu as déposé de ton être, puis tu te poses, tu arrêtes, tu lâches. Parce que la seule manière d'être... Moi, je me lève le matin, ou même dans la journée ou le soir, je me dis, j'accueille les nouvelles rencontres, j'accueille les jolies situations, et peu importe si c'est plus compliqué, ça fait partie de la vie est une aventure. Moi, vous voyez une Indiana Jones, moi je me mets dans des références comme ça,
oui.
Un aventurier, il vit aussi bien des choses compliquées, mais il vit des choses magnifiques. Et la vie, au final, elle est très belle, mais aussi il y a des choses plus compliquées. Voilà, c'est comme ça.
Alors, dites-nous, Gwenaëlla, comment vous aidez les gens avec vos, en étant artiste de rue? Alors, thérapeute, j'ai bien compris. On voit bien, alors, d'ailleurs, que vous maniez les mots comme une thérapeute, en fait, parce qu'il y a un langage thérapeutique, hein, on le sait. Voilà. Donc, j'entends complètement votre côté, et c'est ça qui vous a sauvé, c'est cette intelligence hors norme aussi, hein, de l'autisme Asperger. On l'entend aussi dans vos propos et en sous-titre, évidemment. Alors, l'art. On connaît l'art-thérapie, bien sûr.
Oui.
Comment vous aidez les gens dans la rue? Dites-moi.
Alors, moi, je suis totalement unique. Et d'ailleurs, comme tout à chacun, c'est ça qui est merveilleux. Au final, il n'y a aucune différence. Il y a juste des êtres qui sont complémentaires. On a tous notre place. Donc, moi, je me mets en bas de chez moi. J'habite dans des rues piétonnes. Il y a des maisons de ville très anciennes à Saintes, hein, parce que c'est une ville empruntée d'histoire. Donc, devant mon immeuble qui date de 1700, petite maison de ville de 3 étages, je me mets en bas de chez moi, déjà je crée dans la rue. Quand il fait beau temps, artiste, peintre, créatrice, voilà, avec des objets, beaucoup de récup. Moi, parce que, en fait, je le dis, à ce jour, je mange pas ma faim, je le dis, j'ai ni eau chaude, ni très peu d'électricité, et également, comment dirais-je, pas de chauffage, mais c'est mon four. En fait, c'est quelque part, je vais vous dire une chose, j'ai dû me soigner. Donc, c'est comme ça, c'est ainsi, mais ça me donne encore une force. Et donc, je me mets dans la rue, devant, à créer pour apporter de la joie, de la couleur, de l'art, également de la bienveillance, du respect, du solaire. Je crée ma façon de m'habiller aussi, mon maquillage très atypique.
Oui, en fait, vous utilisez votre corps et votre image comme un support,
exactement,
voilà, un support
comme un
artistique.
Tableau.
Voilà, c'est ça.
D'accord, vous avez compris, c'est ma force à moi. Parce que j'ai ce courage et cette force en homme. Déjà, j'ai pas peur. J'ai plus peur. J'ai pratiquement plus de peur. Je me suis guérie de mes peurs. Donc, je le fais, mais surtout en conscience d'apporter. Quand je vois les gens qui marchent dans la rue, la tête baissée, les femmes, les enfants, il y a beaucoup de gens qui sourient plus. Mais un jour, je me suis dit, écoute, Gwenaëlle, tu vas t'habiller, tu vas être en couleur, peu importe le temps, t'es en couleur. Tu mets des affaires très voyantes de manière à apporter du soleil. Et je me baladais, peu importe le temps, que j'aille bien ou pas, je me baladais en souriant, avec toujours un mot bienveillant. Et après, c'était en bas de chez moi à créer. Maintenant, je suis danseuse, j'aimerais danser et compter, faire des petites scénettes, en fait, parce que les gens ont besoin d'art.
Toujours dans la rue.
Exactement, moi, c'est la rue, je me qualifie de troubadour. J'aime beaucoup le Moyen-Âge, la période médiévale. Moi, j'ai un rapport direct avec ça. Et effectivement, j'aime ce concept d'art de rue. On est des êtres du peuple de la rue. Tous et toutes. Donc, j'aime tellement l'humain. Moi, j'aime pas les réseaux sociaux.
Et surtout, ce que j'entends aussi, Gwenaëlla, c'est que c'est de l'art vivant, hein. Ouais, donc vivante, résolument voilà. Vivante, voilà, c'est ça. Hein. Vous,
merci,
c'est un hymne, vous incarnez un hymne à la vie en fait. Hein, c'est un peu ça.
Merci, exactement. Mais c'est beau ce que vous me dites, Valérie. Il y a une résonance. Vous me comprenez. Vous lisez en moi. Vous traduisez. Je me sens tellement vie. Je suis tellement vie que je suis en vie. Et j'aime le contact. En tant qu'autiste, c'est énorme. J'aime maintenant le contact humain. Et c'est surtout, j'ai appris à parler. J'ai appris à me faire connaître. Parce qu'en tant qu'autiste, on a une neuroplastie, une neuropsychologie qui est totalement atypique. Personne ne me comprenait. On m'a traité encore, il y a encore quelques jours, de folle. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais ce que j'ai à faire. Et surtout, les gens me disent, mais qu'est-ce que c'est clair? Comment tu parles maintenant? C'est énorme. J'ai appris la communication en étant dans la rue, en observant les gens, et face à moi, je me mets à la place des gens. J'ai cette capacité de me mettre à la place des gens, que ce soit un enfant, un animal, un vieillard, je me mets à sa place, comme si je le comprenais au final.
Oui, mais ça, c'est aussi votre autisme Asperger, avec l'hypersensibilité,
oui, voilà.
Et l'empathie plus aussi, d'une
voilà.
certaine
Alors,
manière.
C'est le danger, hein. C'est le danger de l'empathie plus, parce que d'où qu'on sait pas dire non. D'où qu'on a peur de dire non, d'où qu'on croit que c'est mal de dire non, d'où que c'est un monde de bisounours. Et quelque part, oui, les prédateurs, c'est la fête à neuneux. Excusez-moi, j'aime pas parler comme ça, mais les prédateurs, ce sont vraiment des prédateurs. C'est grave. Ce sont des monstres. Et ben, il se dit, cette petite fille-là, et ben, qui croit que c'est, qui est dans un petit monde un peu de bisounours, ben, elle est facile. Elle est facile à accueillir ou à maltraiter ou à violer. Et c'est la vérité. Par contre, moi, j'ai appris. Hein. À m'affirmer, à dire non, à me faire respecter. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de moi dans la rue. Il a fallu que j'aille voir personne après personne pour demander le respect que je mérite et qu'on mérite tous et toutes. On n'a plus à accepter ça.
Vous avez osé aussi, c'est ça que j'entends, Gwenaëlla.
J'ai osé,
là. Vous
hein,
avez
au début,
osé, ça aussi
hein.
C'est une clé. Hein. Oser,
ça
oser se positionner, oser dire. Oui.
Si on ne fait pas, on ne sait pas. Donc, agir, action, choisir aussi, en conscience, de vivre. Et je me dis, bah, si au moins je n'essaye pas, je ne sais pas si je sais faire. Si je n'expérimente pas, et surtout, comment dirais-je, je fais le choix d'oser, mais surtout d'agir. À ma manière, chacun fait comme il peut à sa manière. Moi, je fais comme ça. J'ai aussi des souffrances à l'ultra, parce que c'est du trash, on le dit. Mais quelque part, ça m'a donné une force telle que maintenant... J'ai une confiance énorme.
Et ce qui est magnifique dans Gwenaëlla, ce qui est magnifique dans votre témoignage, c'est que vous rajoutez aussi de la poésie.
Merci.
Et ça, c'est pas rien. Bon, vous savez que moi, j'aime les mots. J'ouvre toujours les émissions La Libre Antenne avec des citations. Et souvent, les auditrices et les auditeurs lisent des poèmes dans La Libre Antenne. Et je vous incite d'ailleurs à nous en envoyer, hein, si vous le souhaitez, évidemment,
moi,
pour ceux qui nous écoutent. Voilà.
Moi, j'écris moi-même.
Voilà. Et on sous-estime la force de la poésie, de la fantaisie.
Oui. Je suis une femme très fantaisiste, très fantasque. Et puis, je suis très romantique. Mais surtout, des fois, les gens me disent c'est un poème à toi-même. Voilà, c'est comme ça. C'est,
attendez,
c'est
je ne vous ai pas entendu. Vous êtes éloignée du téléphone. Allez-y.
Pardon. Les gens me disent que je suis un poème à moi-même. Que je suis une poésie, c'est pour ça que j'écris des contes, que j'écris beaucoup de poèmes d'amour, que je passe des heures et des heures à être... Finalement, je me considère, oui, comme une poète, au-delà d'être une artiste. La vie est une poésie pour moi. Voilà, c'est comme ça que je vois la vie maintenant.
Et oui, c'est ce que j'entends dans vos propos. Moi, ce que je vous propose, Gwenaëlla, c'est que d'abord, je vous remercie beaucoup d'avoir témoigné ce soir de votre histoire, de nous montrer ce chemin de l'espoir, comme quoi c'est toujours possible, il ne faut pas le perdre de vue. C'est aussi le message qui a été donné hier à Hélène par Patricia et par toutes les personnes qui communiquent encore ce soir leur numéro de téléphone, et il y a encore Frédéric qui vient de le faire pour Hélène. Donc c'est vraiment ce chemin de l'espoir, y croire, continuer d'y croire, savoir que nous ne sommes pas seuls, donc vraiment un grand merci. Et moi, ce que je vous propose avant qu'on se sépare, parce que c'est la fin de cette émission, c'est de nous rappeler quand vous voulez pour nous lire un de vos poèmes.
D'accord, moi je vais vous écrire des choses et je voudrais remercier Raphaël, je voudrais remercier plein de personnes qui font partie de ma vie, mon fils, ma famille, mes frères et sœurs, ma maman, mon papa, qui ont fait ce qu'ils ont pu, parce que la vie est très dure. Et en même temps, je remercie la vie, parce que je suis en vie et je compte vivre de la manière la plus vertueuse, la plus honorable, Parce que merci. Je ne sais pas si je serai là dans 5 minutes, mais je veux vivre.
Merci
simplement.
Beaucoup. Merci beaucoup, Enaïla. Je suis obligée de vous laisser. C'est la fin de l'émission. À très
plein
vite sur l'antenne avec vos poèmes.
Merci beaucoup. Plein d'amour.